Saint-Joseph, le 19 février 85.
Nous avons la dernière fois essayé de comprendre ce que c'est que le citoyen, la vertu du bon citoyen et la vertu de l'homme comme tel. Nous allons essayer maintenant de voir, si vous voulez, les formes de gouvernement. Les deux choses se tiennent, en ce sens que nous avons vu que le bon citoyen et l'homme bon s'identifie dans la mesure où on est en présence d'un gouvernement qui est parfait. Et c'est même le signe du gouvernement parfait pour Aristote. Le gouvernement n'est parfait que lorsque, de fait, étant conforme au gouvernement, on est celui qui, par le fait même, acquiert une vertu parfaite. Alors, Aristote va distinguer, ce que nous connaissons bien du reste, mais c'est quand même important de le revoir, les diverses formes d'autorité. La première autorité, celle absolue du maître sur l'esclave, celle du père sur les enfants, celle du père sur la maison tout entière, c'est-à-dire l'autorité domestique proprement dite. Donc, nous avons les trois autorités fondamentales qui, d'une certaine manière, ne sont pas politiques. Elles sont au niveau de la famille. Puis nous avons les autorités proprement politiques, diverses formes de gouvernement et de constitution. L'autorité d'un seul, l'autorité d'un petit nombre et l'autorité de tout. Donc il y a les trois. L'autorité d'un seul, l'autorité d'un petit nombre et l'autorité de tout l'ensemble. Alors, l'autorité d'un seul, on sait très bien ce que ça correspond, c'est l'autorité du roi. Alors, l'autorité du roi, Aristote ne cesse de rappeler que l'autorité du roi, c'est une autorité paternelle, c'est-à-dire qu'elle s'enracine dans l'autorité proprement de la maison. Dans la maison, il y a le père et l'autorité du père à l'égard de ses enfants. Et l'autorité du père à l'égard de ses enfants est une autorité royale. Et on comprend très bien pourquoi c'est une autorité royale, parce que c'est l'autorité d'un seul, sur les enfants, comme tel. L'autorité du petit nombre, c'est l'autorité des hommes vertueux. Ce que Aristote appellera l'autorité aristocratique. L'autorité aristocratique, c'est l'autorité donc de ce que représente un petit nombre, les hommes vertueux. Et l'autorité de tout, c'est lorsque le peuple lui-même, dans chacun des membres du peuple, est appelé à gouverner. Alors, on appellera ça l'autorité démocratique, ou plus exactement l'autorité de la République, c'est la politeia. L'autorité se fonde alors sur la multitude. C'est elle qui gouverne en vue de l'utilité commune. Et c'est le nom commun de tous, de toutes les constitutions, politeia, qui va de fait être employé pour cette autorité particulière qui est l'autorité de tous. Toutes ces autorités sont pour Aristote légitimes dans la mesure même où elles sont utiles au bien commun, dans la mesure même où elles sont ordonnées au bien commun. L'autorité de type monarchique, c'est-à-dire la royauté, elle est ordonnée non pas du tout au bien du roi, mais elle est ordonnée au bien du peuple. L'autorité aristocratique, la même chose. Alors Aristote essaie de voir ce qu'il y a de particulier dans chacun de ces biens communs. Vous voyez, puisque chacune de ces autorités regarde les biens communs, le roi, l'autorité aristocratique et l'autorité républicaine, si vous voulez, la respublica. L'autorité du roi va montrer avant tout le point de vue de l'autorité. C'est l'autorité du père. C'est là où l'aspect de l'autorité est le mieux manifesté en vue du bien commun. Et cette autorité du père en vue du bien commun, cette autorité paternelle en vue du bien commun, c'est justement dans le point de vue que c'est mieux manifesté, c'est-à-dire là où le service, puisque l'autorité est un service en vue du bien commun pour tous. Dans l'autorité aristocratique, c'est le point de vue de la vertu. Dans le bien commun, ce sera l'aspect de la vertu qui va apparaître en plus. Dans l'autorité républicaine, c'est le point de vue de la liberté. Donc le bien commun ne sera pas le même dans ces trois autorités différentes. Il y aura quelque chose de particulier qui va apparaître dans ces biens communs. Parce que d'un côté, on aura le point de vue propre, si vous voulez, de celui qui exerce l'autorité paternelle, l'autre qui exerce le point de vue de la vertu, et le troisième, le point de vue de la liberté. Parallèlement à ces trois autorités, vous allez avoir les déviations de ces trois autorités. Vous aurez l'autorité tyrannique. Quand la royauté se pervertit, c'est la tyrannie. Quand l'aristocratie se pervertit, nous sommes en présence de l'oligarchie. Dire aujourd'hui que la démocratie, c'est l'aspect de la République perverti. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire dans le sens d'Aristote. Hein. Il considère que dans l'oligarchie, elle n'est en vue que de l'intérêt des riches. La tyrannie, c'est uniquement en vue de l'autorité de celui qui gouverne. Un tyran, c'est l'anti-roi. Et c'est celui qui, à la place de regarder le bien commun de tous, regarde uniquement le bien commun de celui qui gouverne, le roi. Dans le point de vue de l'oligarchie, à la place de la vertu, c'est la richesse. C'est le gouvernement de ceux qui ont la richesse. Alors, elle n'est qu'en vue de l'intérêt des riches, d'un petit groupe. Tandis qu'au contraire, dans la démocratie, elle est en vue de l'intérêt des indigents, des pauvres. Régime de pauvreté. La démocratie, telle qu'Aristote l'appelle démocratie, la perversion de l'aspect de la République. Évidemment, à ce moment-là, puisque nous sommes dans la position anti, il n'y a plus de bien commun. Il n'y a plus que le bien de l'un, d'un petit groupe, et soi-disant de tous. Mais ce n'est pas le bien commun de tous, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Pour Aristote, la démocratie, qui est justement la perversion de l'aspect de la République, c'est le point de vue de l'intérêt des indigents. On va vers un régime de pauvreté, mais de pauvreté pas évangélique, hein, de pauvreté, c'est-à-dire l'indigence, tout simplement. Le mot aporos, tandis que la richesse est euporos. Alors Aristote joue sur euporos et aporos. Euporos et aporos. Euporos, c'est la richesse. Les richesses, et ici, c'est la pauvreté. Et il y a une opposition entre les deux, c'est évident. D'un côté, voyons, c'est la richesse, et de l'autre côté, c'est la pauvreté qui est recherchée. Alors, il n'y a plus de bien commun, puisqu'on est en présence justement d'une perversion du gouvernement. Une fois qu'Aristote a montré ces diverses formes, alors comprenons bien, parce que c'est ça qu'il faut essayer de saisir, c'est quand Aristote fait cette analyse, il essaie d'étudier les éléments de l'autorité politique. Quels sont les trois grands éléments de l'autorité politique? Les trois aspects de l'autorité politique. Et les trois aspects de l'autorité politique, aspect politique, c'est uniquement un, le multi, c'est toujours là-dessus, plusieurs, tous. C'est très élémentaire comme forme. C'est d'essayer de comprendre que d'un côté, on a une forme de gouvernement unique, d'un autre côté, c'est plusieurs, et d'autre côté, c'est tous. Alors, on comprend que vous ne pouvez pas avoir d'autres formes de gouvernement. Et ça se prend par l'autorité, puisque c'est l'autorité qui est coefficiente, qui fait la communauté. Et donc, c'est du côté de l'autorité répartie, un, plusieurs ou tous, que nous pouvons préciser justement ces divers types d'autorité. Et la perversion d'autorité, ce sera la même chose. Un, plusieurs, tous. Puisque c'est élémentaire, puisque ce sont des formes élémentaires de gouvernement, ces formes élémentaires de gouvernement vont pouvoir s'unir dans un mixte. Et ce sera la forme de gouvernement parfait. Parce que ce qui est élémentaire comme tel ne peut jamais être parfait. C'est ça qu'il faut saisir. Parce que nous, nous pensons toujours, quand Aristote parle de la forme monarchie, aristocratique et républicaine, nous pensons à quelque chose de concret. Alors que c'est le fruit d'une analyse philosophique. Et on essaie de saisir des modalités particulières du gouvernement. Le gouvernement se donnera à nous selon trois modalités particulières. Une modalité royale, une modalité aristocratique, une modalité proprement républicaine. Donc ce sont trois modalités différentes. Et la perversion de ces trois modalités donneront les trois autres. Si je regarde une forme de gouvernement concrète. Ce n'est jamais l'élément qui est concret, c'est le mixte. Donc vous ne trouverez jamais à l'état pur ces éléments d'Aristote. Et Aristote le sait très bien, c'est là les erreurs, quand on applique ça un peu matériellement, on oublie que c'est une étude philosophique. Ce n'est pas une description que fait Aristote. Cicéron fait des descriptions. Mais pas Aristote. Aristote analyse. Oui. Et alors, dans l'analyse, on a nécessairement trois manières de concevoir l'autorité. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir, Aristote ne le fait pas, mais je crois que pour nous, c'est important de le faire, puisqu'on est en présence de trois modalités d'autorité. Ce qui serait intéressant, c'est de voir quels sont les fondements de ces autorités. Quel est le fondement de l'autorité royale? Quel est le fondement de l'autorité aristocratique? Quel est le fondement de l'autorité républicaine? Le fondement de l'autorité royale, pour Aristote, c'est très net, puisque ça repose sur la famille. C'est donc un fondement naturel. Le roi est naturellement roi. Mais comme le père. Alors, comprenons bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes né avec la royauté sur la tête, hein. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que c'est comme l'autorité paternelle. Le père est naturellement père. À cause de la procréation, à cause de l'éducation. Le roi est naturellement roi. À cause d'un privilège de nature, ça ne veut pas dire qu'il est plus divin, non, un privilège de nature lié à la famille. Donc c'est une autorité dont le fondement est naturel. Alors le fondement naturel, vous comprenez bien, le roi n'est roi que s'il a une prudence de roi. C'est donc s'il a les qualités possibles d'être roi. C'est pour ça que saint Thomas, lorsqu'il parle du traité du Christ, dit « Le Christ, dans sa nature humaine, puisqu'il est parfait, étant donné le mystère de l'union hypostatique, il est roi. Il est naturellement roi. Et il est naturellement roi parce qu'il a les qualités pour être roi. Comme le roi a le point de vue de la prudence, il est capable, justement, de gouverner. Il a cette qualité particulière de gouverner. Donc, c'est la prudence qui regarde le point de vue du gouvernement, qui regarde le point de vue du bien commun. Donc, c'est la prudence. Une prudence acquise, c'est évident. Mais s'il a la prudence, il a la capacité d'être roi. La royauté repose sur la capacité de gouverner les autres. C'est pour ça que c'est naturel. L'aristocratie repose sur le point de vue des vertus. Ce sont les meilleurs. Vous allez dire, le roi, c'est le meilleur. Jamais Aristote dit ça. Ce serait la logique, ça. Tandis qu'au contraire, les aristocrates, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs au point de vue de leur capacité d'homme. C'est là où les vertus sont les plus enracinées. C'est là où les vertus sont les plus parfaites. Donc, c'est vraiment, ça représente les aristocrates, ça représente les aristocrates, ceux qui gouvernent. La République. Alors, le gouvernement repose sur quoi? Sur la capacité que tous les citoyens ont de pouvoir gouverner. Oui, si on cherche quel est le fondement de l'autorité. On voit bien que le fondement de l'autorité n'est pas le même dans les trois cas. C'est du reste pour ça que le bien commun est différent. D'un côté, c'est vraiment la qualité naturelle de la prudence. De l'autre côté, ce sont les meilleurs. C'est plusieurs. Et puis, en définitive, après, c'est le point de vue de la République, c'est le point de vue de la capacité. Elle est presque dit, vous voyez, que c'est un pouvoir en puissance. C'est les capacités de tous de pouvoir gouverner. Alors, à partir de là, nous pouvons comprendre ce que représente le gouvernement le meilleur. C'est celui qui fera la synthèse de ces trois éléments. Fera la synthèse de ces trois éléments. C'est-à-dire, il unira le point de vue de l'autorité. Quand l'autorité est parfaite, elle s'exerce toujours par une personne. Une autorité qui se multiplie n'est plus une véritable autorité. Oui, c'est un fait. L'autorité est personnelle. Le pouvoir n'est pas nécessairement personnel, mais l'autorité est personnelle. Alors, la distinction entre pouvoir et autorité n'est pas toujours faite dans Aristote. Mais je crois du fait même qu'il reconnaît trois formes d'autorité, il y a la distinction de l'autorité et du pouvoir. Oui. Alors, c'est sous-jacent, c'est pas impliqué, c'est pas explicite. Hein. Je ne crois pas. Quand on relit la République et qu'on essaie de voir, si vous relisez le point de départ de la République jusqu'au terme, posez-vous la question, est-ce que chez Aristote, la distinction entre pouvoir et autorité est faite? Oui, la dounamis grecque implique les deux. La dounamis, le grec fait que c'est dounamis l'autorité, bien c'est de fait. Ça implique pouvoir et autorité. Ce ne sera qu'après, on fera la distinction entre pouvoir et autorité. Et c'est une distinction qui est très importante. Parce que vous voyez que l'autorité n'est parfaite que quand elle est personnelle. Si l'autorité est personnelle, l'autorité exercée par un seul est plus parfaite comme autorité que si elle est exercée par plusieurs. Donc, on peut dire que là, on a le point de vue de l'autorité dans toute sa perfection. C'est donc la prudence. Puisque le fondement propre de l'autorité, c'est la prudence. Un homme qui n'est pas prudent n'a aucune autorité. Il n'a pas d'autorité puisqu'il va mener les autres en dehors de leur fin. C'est évidemment un peu terrible de dire ça, mais c'est un fait philosophiquement, il faut le dire. Quelqu'un qui n'a pas la prudence, c'est-à-dire quelqu'un qui est incapable de discerner les moyens et la fin, incapable de voir l'ordre qui existe entre les deux, puisque la prudence, c'est voir l'ordre entre les deux, celui qui est incapable de saisir la différence entre les moyens et la fin, n'a aucune prudence. N'ayant aucune prudence, il ne peut avoir aucune autorité. L'exercice de l'autorité repose donc sur cette distinction d'ordre entre les moyens et la fin. C'est ça le propre de la prudence. Ordonner les moyens vis-à-vis de la fin. Et vis-à-vis donc du bien comme tel. Le point de vue aristocratique, c'est les vertus. Alors, ce n'est plus, c'est les meilleurs, c'est les vertus. Ce n'est plus la note de l'autorité qui domine. Je dirais que c'est, comprenons bien, c'est peut-être l'éducation qui domine. Et dans le point de vue de la République, c'est les capacités de chacun, c'est la responsabilité partagée. Chacun doit se considérer comme capable de gouverner. Et donc si chacun se considère comme capable de gouverner, il s'engage beaucoup plus profondément que celui qui se dit « Ah, c'est pas moi, je ne suis pas responsable. C'est pas moi qui exerce l'autorité, je ne suis pas responsable. » Alors à partir de là, on laisse tout couler. Tandis qu'au contraire, si on est engagé et qu'on a cette capacité, c'est tout à fait différent. On est engagé dans le point de vue du bien commun, et on recherche le bien commun. Alors c'est vraiment le point de vue de la liberté, et la liberté va avec la responsabilité. La responsabilité partagée. Alors, la forme mixte de gouvernement, c'est de maintenir un seul qui gouverne. C'est de maintenir autour de celui qui gouverne une multitude de magistrats, de responsables avec celui qui gouverne, au titre de conseil. Le conseil est toujours meilleur quand il est multiple. La qualité du conseil, c'est d'impliquer des informations multiples. L'autorité est unique et le conseil, au contraire, c'est l'inverse. Quand vous demandez conseil à un seul, ce n'est pas suffisant. Vous demandez conseil à plusieurs. Le conseil, il est toujours multiple. Et la qualité du conseil, c'est d'être multiple. Donc, Aristote, les meilleurs. Les meilleurs, c'est le point de vue, c'est le point de, vue de la multiplicité. Et le point de vue de la démocratie, c'est le point de vue de la responsabilité partagée, la coopération. Pour qu'un gouvernement puisse être le meilleur qu'il soit, il faut qu'il y ait une coopération efficace. Et pour qu'il y ait une coopération efficace, il faut justement que tout soit intéressé et que tout soit responsable. Donc, vous voyez comment on peut arriver à concevoir la manière dont Aristote conçoit le meilleur gouvernement. On a dit c'est la monarchie. Ce n'est pas vrai. Parce que quand on dit que c'est la monarchie, on pense tout de suite uniquement à ce point de vue élément. Aristote ne peut pas considérer que l'élément est parfait. Un élément n'est jamais parfait. Au point de départ, c'est très vrai, un état au point de départ peut être uniquement monarchie, une monarchie absolue, parce qu'il sort de la famille. Alors on a l'autorité du père qui est prolongée dans le roi. Mais pour Aristote, c'est élémentaire. C'est un stade d'un état qui n'est pas encore parfait. On pourrait trouver, après la chute du tyran, les aristoïs qui gouvernent. C'est élémentaire. C'est un moment qui reprend de cette manière-là. Où on peut retrouver encore le point de vue république, le point de vue de la république où tous ont la capacité de gouverner, c'est encore élémentaire. Donc, je crois très important de bien saisir que seul le mixte pour Aristote représente la perfection. En dehors de ça, il n'y a pas de perfection. On est en face d'éléments, de choses élémentaires. Alors, vous voyez, je vous lis par exemple ce point de vue-là, la meilleure forme de gouvernement, de constitution. Quelle est la forme de gouvernement politique la plus parfaite de toutes pour un peuple apte à réaliser le genre de vie conforme le plus possible à ses vœux? Quand on se dispose à procéder à une recherche sur la constitution idéale, il faut nécessairement déterminer d'abord quel est le mode de vie le plus désirable. Alors, c'est quel est le mode de vie le plus désirable, puisque, au fond, la constitution la plus parfaite doit conduire les hommes à une manière de vivre qui soit la plus parfaite. Donc, il faut d'abord choisir le mode de vie le plus digne d'être choisi par tous les hommes. Le mode de vie le plus digne à être vécu par tous les hommes, c'est l'homme honnête, l'homme vertueux, l'homme qui acquiert une plénitude de toutes ses virtualités. Ce mode de vie est-il le même pour l'individu et celui qui gouverne, si on est en présence justement de la forme idéale de gouvernement, on aura cette identification entre les deux. Et au fond, c'est ça vers lequel on tend. Ça n'arrivera jamais. Parce que la constitution idéale n'est jamais parfaite. Il y aura toujours quelques-uns qui s'infiltreront dedans et qui feront qu'il y aura quelque chose qui ne sera pas parfait. Mais on y tend. Et c'est important de voir cela. On y tend exactement comme on tend vers une finalité. Là, on tend vers une cause exemplaire. La forme idéale de gouvernement, c'est une cause exemplaire. Ce n'est pas une finalité. C'est une cause exemplaire. Donc, vous voyez bien que la cause exemplaire vient, lorsqu'il s'agit de la philosophie politique, comme l'élément qui finalise tout le point de vue de la philosophie politique. La philosophie politique ne nous donne pas une nouvelle finalité, mais une nouvelle cause exemplaire. Alors, c'est là où Aristote dira, à propos justement de cette forme de gouvernement parfait, c'est donc le livre 7, chapitre 4. Après les observations préliminaires que nous venons de faire sur ces divers sujets, et nos études antérieures sur les autres formes de constitution, le point de départ de ce qui nous reste à traiter, c'est d'examiner d'abord quelle doit être la nature des conditions fondamentales relatives à l'État appelé à une organisation selon nos vœux. Car la constitution idéale ne peut se réaliser sans tout un cortège de moyens appropriés. Aussi devons-nous préalablement poser à la base un grand nombre de conditions conformes en quelque sorte à ce que nous souhaitons, sans toutefois qu'aucune d'elles soit irréalisable. J'entends par exemple ce qui a rapport à la fois au nombre des citoyens et au territoire. De même en effet que les autres artisans, comme un tisserand ou un constructeur de navires, ont besoin d'une matière qui se prête à leur travail, car le produit de leur art est nécessairement d'autant plus parfait que cette matière aura été préparée avec plus de soin. Ainsi en est-il de l'homme d'État et du législateur. Ils doivent disposer d'une matière qui soit convenablement appropriée à leur œuvre. Et parmi les matériaux nécessaires à un homme d'État, vient au premier rang le nombre des citoyens. Et comment ? Il essaie de voir toutes les conditions sine qua non pour aboutir à cela. Ce n'est plus des principes. On est dans l'ordre du conditionnement. Et donc, c'est les conditions sine qua non. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Ce n'est plus, si vous voulez, une recherche d'un principe. Les principes sont donnés avec les éléments. Donc, on ne peut pas dire que la constitution idéale et que l'autorité parfaite d'une constitution représente un nouveau principe. Non. C'est une manière d'exister. C'est une manière d'exister, on est en face de la recherche d'une cause exemplaire. Et ça, c'est très important, vous voyez. C'est très important pour savoir s'il y a une politique chrétienne. Parce que toute la question est là. Y a-t-il un nouveau principe ou sommes-nous simplement en face d'une manière parfaite de concevoir le point de vue de l'État? Et la manière parfaite de concevoir le point de vue de l'État, la meilleure forme des constitutions, implique la synthèse de différents éléments. Alors, et parmi les matériaux nécessaires à un homme d'État, vient au premier rang le nombre des citoyens. Ce n'est pas du tout un principe, c'est une quantité. Si on est dans l'ordre du conditionnement, si on est dans l'ordre de la causalité exemplaire, on comprend très bien. Si j'étais dans l'ordre d'une recherche d'un principe, je dirais, mais c'est complètement en dehors de toute la perspective d'Aristote. Le premier élément nécessaire pour un État parfait, c'est de savoir que cet État ne doit pas être trop grand. Parce que dès qu'on arrive à un chiffre trop grand, il y a quelque chose qui ne va plus. Situation limite qui provient de la quantité. Et la situation limite qui provient de la quantité est une situation limite par rapport à la cause exemplaire. Donc, et parmi les matériaux nécessaires à un homme d'État vient en premier rang le nombre des citoyens. Quel sera précisément ce nombre? Et quels caractères déterminés doivent-ils naturellement présenter? On se posera la même question pour le territoire. Quels sont à la fois son étendue et sa nature particulière? Et la plupart des hommes, assurément, s'imaginent que l'État heureux ne peut être qu'un grand État. Mais en admettant qu'il soit dans le vrai, ils ignorent totalement ce en quoi consiste un grand ou petit État. Ils jugent en effet de la grandeur d'un État par le chiffre de ses habitants, alors qu'on doit avoir égard à la puissance plutôt qu'au nombre. Car un État a aussi une œuvre à réaliser, de sorte que c'est l'État le plus capable de l'accomplir qui doit être regardé comme le plus grand. Au sens où l'on peut parler qu'Hippocrate est plus grand, non pas comme homme, mais comme médecin, que quelque autre qui lui est supérieur par la taille. Vous voyez bien le raisonnement. Donc, un État est grand en fonction qu'il est capable de réaliser ce pourquoi il est fait. Ce n'est pas la question de la grandeur. Alors, vous voyez comment Aristote conçoit. La question du nombre, la question du territoire, c'est très important pour essayer de réaliser un État parfait. Un État capable de réaliser une œuvre parfaite, son œuvre. Réaliser ce que représente l'œuvre parfaite. Cependant, en admettant même qu'on ait raison de juger de la grandeur d'un État en ayant, et en ayant égard aux chiffres de sa population. On doit se garder de le faire en prenant n'importe quelle population, car inévitablement, les cités contiennent presque toujours des esclaves, des métèques, des étrangers en grand nombre. C'est la question, savoir si les métèques sont plus nombreux que les véritables citoyens. Arrivé à un moment donné, s'ils sont trop nombreux, vous voyez, ça fait un état gigantesque qui n'a plus de force. C'est les principes qu'ils donnent, hein. Pas des principes, c'est le conditionnement. Condition sine qua non, il ne faut pas l'oublier. Mais on devra s'attacher uniquement à ceux qui sont une partie de la cité et qui entrent dans la composition d'une cité à titre d'éléments propres. C'est la supériorité numérique de ces éléments, en effet, qui est signe de la grandeur d'un État. Tandis qu'un État dont sortent des artisans en grand nombre contre un petit nombre de guerriers ne peut pas être un grand État, car il n'y a pas d'identité entre grand État et État populeux. Le grand État, c'est celui qui est capable d'atteindre sa finalité. Évidemment, on dira que c'est terriblement aristocratique, ça. C'est pas aristocratique, c'est politique. Ouais. C'est-à-dire l'État capable de remplir ce pourquoi il est fait. Et ce pourquoi il est fait, c'est le bonheur des citoyens. C'est de permettre aux citoyens d'atteindre le plus possible leur vie. C'est donc l'épanouissement parfait de la nature humaine. Mais cependant, ce qui résulte clairement aussi de l'examen des faits, c'est qu'il est difficile et peut-être impossible pour un État dont la population est trop nombreuse d'être régi par de bonnes lois. En tout cas, parmi les États ayant la réputation d'être sagement gouvernés, nous n'en voyons aucun se relâcher de sa vigilance en ce qui touche le chiffre de la population. Ce point est encore rendu évident sur la foi d'arguments théoriques. La loi est en effet un certain ordre et la bonne législation est nécessairement un bon ordre. Or, une population qui atteint un chiffre trop élevé ne peut pas se prêter à un ordre. Y introduire de l'ordre serait dès lors un travail relevant d'une puissance divine. Très intéressant, ça. Le seul État qui ne doit pas limiter, le nombre de ses citoyens, c'est celui qui dépend d'une puissance divine. On renverse l'argument, c'est exactement ce qu'il dit. Une puissance humaine, c'est-à-dire une prudence humaine. Toujours la même question. La prudence humaine est limitée dans son conditionnement. Si elle est limitée dans son conditionnement, elle ne peut pas embrasser un tout trop grand. Si elle embrasse un tout trop grand, elle ne sera plus un gouvernement. Il n'y aura plus l'ordre voulu. Or, l'ordre, c'est la qualité profonde de la communauté. Une communauté n'est vraiment communauté que si elle est conforme à ses lois. Vous voyez le raisonnement qu'il donne. Je crois que c'est très significatif pour comprendre alors concrètement, et non plus dans l'analyse philosophique qu'il a faite avant, mais concrètement ce que représente le conditionnement d'un État qui tend à être parfait. Celle-là, donc la puissance divine, celle-là même qui assure la cohésion des diverses parties de notre univers. La puissance divine gouverne notre univers. Hein. La puissance divine gouverne notre univers. Et donc là, c'est le tout. La puissance divine enveloppe tout. Mais pour que l'univers soit gouverné sagement, il faut qu'il y ait des parties qui ne soient pas trop nombreuses. Mais c'est ça, je crois, qui est au fond l'idée profonde d'Aristote. Hein. C'est que le tout, s'il est trop grand, ne peut pas être gouverné par un seul. Donc le tout devra s'organiser en diverses parties. Et les parties différentes pourront être gouvernées par un seul. Et le tout lui-même pourra peut-être gérer ces diverses parties. Les diverses parties s'organiseront et elles s'uniront. et s'unissant, pourront former un État, on dirait aujourd'hui fédératif. Pensez à la Suisse. Hein. Les cantons, et les cantons s'unissent les uns aux autres, et au-delà des cantons, c'est l'aspect fédéral, et l'aspect fédéral sera commandé dans un seul. Toujours. L'autorité devra toujours résider dans un seul, et non pas dans plusieurs. Parce que l'autorité ne peut s'exercer, l'imperium, hein, ne peut s'exercer que par le point de vue de la personne. Donc, notez bien ce passage, il est intéressant, parce que c'est un passage où on voit bien qu'Aristote reconnaît que l'univers est gouverné par Dieu. 1326 à 30 et suivant. Et puisque le beau se réalise habituellement dans le nombre et la grandeur, il en résulte qu'un état aussi, qui combine la grandeur avec la juste limite dont nous avons parlé, sera nécessairement d'une beauté parfaite. Cause exemplaire qui se retrouve du côté de la beauté. Ça confirme que c'est bien la cause exemplaire. Mais il reste en effet une certaine mesure de grandeur pour un état, comme il y en a une aussi pour tout le reste, animaux, plantes, instruments. Aucun de ces êtres, s'il est trop petit ou d'une grandeur excessive, ne conservera sa capacité à remplir sa fonction. Mais tantôt, il aura entièrement perdu sa nature et tantôt verra sa condition viciée. Par exemple, un navire long d'un empan ne sera pas du tout un navire et pas davantage s'il a deux stades et même s'il atteint une dimension déterminée. Dans un cas, son exiguïté et dans l'autre, son excessive grandeur rendront sa navigation défectueuse. Pareillement aussi pour un État. Si sa population est trop faible, il ne pourra se suffire à lui-même. Or, l'État est un être se suffisant par lui-même. Toujours, hein, l'autarkeia. C'est l'autarkeia qui est le terme, l'acte de l'État, la communauté politique. Et si elle est trop nombreuse, il se suffira assurément à lui-même dans les besoins essentiels de la vie, mais ce sera à la manière d'une nation et non d'une cité, car il n'est pas aisé de lui donner des instructions politiques, qui, en effet, peut être stratège d'une multitude aussi vaste. Où sera son héros s'il a la voix de Stentor? Il s'ensuit qu'une cité première est nécessairement celle qui est composée d'une population assez nombreuse pour atteindre le chiffre minimum suffisant pour mener la vie heureuse au sein de la communauté politique. Et il peut se faire aussi qu'un État qui surpasse cette cité première par le chiffre de sa population fasse un État plus grand aussi. Seulement, comme nous l'avons dit, cette possibilité d'accroissement n'est pas indéfinie. Ça, c'est le gros problème pour Aristote au point de vue de la réalisation. Mais pour décider sur les questions de droit, comme pour distribuer les fonctions publiques d'après le mérite, il est indispensable que les citoyens se connaissent entre eux et sachent ce qu'ils sont, attendu que là où cette connaissance n'existe pas en fait, la nomination aux magistratures et l'administration de la justice vont nécessairement tout de travers, car dans ces deux domaines, on n'a pas le droit d'agir à la légère, et pourtant, c'est manifestement ce qui se passe dans une société trop nombreuse. Autre inconvénient, étrangers et métèques usurpent sans peine les droits de citoyens, car il leur est facile d'échapper à l'attention à cause de l'étendue de la population. Donc plus de surveillance, toutes les fuites possibles. Donc on voit très bien qu'est-ce qu'il veut montrer dans cet état idéal. Alors cet état idéal implique par le fait même un nombre de citoyens, un territoire limité, et alors il ajoutera, ça c'est tout à fait grec, l'état idéal doit avoir accès à la mer. Condition sine qua non d'un état idéal. Un état qui n'est pas lié à la mer ne pourra jamais avoir son autarkeia. C'est très curieux. L'état idéal, alors le caractère national de l'état idéal. Pour ce qui a trait au nombre des citoyens, nous avons précédemment indiqué quelle limite il convient de lui appliquer. Disons maintenant, quel doit être le caractère naturel des citoyens ? Voici à peu près ce qu'on peut penser à ce sujet. En portant à la fois ses regards sur les cités réputées de la Grèce et sur la totalité de la terre habitée telle qu'elle est distribuée entre les diverses nations. Les nations situées dans les régions froides, et particulièrement les nations européennes, sont pleines de courage, mais manquent plutôt d'intelligence et d'habileté technique. Mais le froid augmente le courage, il faut lutter. Ça augmente le courage, c'est sûr, mais ça n'augmente pas l'intelligence. Alors, il manque plutôt d'intelligence et d'habileté technique. C'est pourquoi, c'est intéressant de voir le regard d'Aristote sur l'Europe, hein, sur ce que représente tout ce qui est au-dessus de la Grèce. Il ne faut pas oublier, tous ils sont barbares en dehors de la Grèce. Hein. Alors, il y a un petit peu ça. La Grèce est le nombril du monde, hein, c'est forcé. C'est pourquoi, tout en vivant en nation relativement libre, elles sont incapables d'organisation politique et impuissantes à exercer la suprématie sur leurs voisins. Au contraire, les nations asiatiques sont intelligentes et d'esprit inventif, mais elles n'ont aucun courage. Et c'est pourquoi elles vivent dans une sujétion et un esclavage continuel. Mais la race des Hellènes... Mais la race des Hellènes, occupant une position géographique intermédiaire, participe de manière semblable aux qualités des deux groupes de nations précédentes, car elle est et courageuse et intelligente, et c'est la raison pour laquelle elle mène une existence libre, sous d'excellentes institutions politiques, et elle est même capable de gouverner le monde entier si elle atteint à l'unité de cette constitution. Les nations grecques, comparées entre elles, accusent aussi la même diversité. Les unes présentent une nature...